Ce matin, le psaume 84, dernier chant que nous avons chanté et notamment tiré de ce psaume, le psaume 84, au chef des chantres sur la guittite, des fils de Corée, psaume, que tes demeures sont aimables. Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Et je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ce psaume n'a pas été écrit par David, mais par les fils de Corée, ou plutôt les descendants de Corée, parce que Corée était un contemporain de Moïse. Et quand nous lisons les fils de Corée, ça correspond à la descendance, qui on les place souvent soit du temps de David, soit du temps de Salomon. En fait, c'est une descendance qui est de père en fils, musicien et chantre. Aussi, quand vous lisez un psaume des fils de Corée, c'est difficile de le dater à cause de cela. Ça peut dater du temps de David, ça peut dater du temps de Salomon, et peut-être même après. C'est le verset 7 qui va surtout nous intéresser. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. L'origine du mot Baca n'est pas sûre. Le mot Baca désignerait un arbuste résineux, qui laissait couler des gouttelettes de son écorce comme un arbre qui pleure. D'où ce nom qui aurait donné dans cette vallée la vallée des pleurs. On pense que c'était une vallée qui était à l'ouest de Jérusalem, mais on n'en est pas sûr. La vallée de Baca devait certainement correspondre, en tous les cas, à un lieu bien précis, mais elle est devenue surtout la métaphore de... pour exprimer une situation de souffrance, de difficulté, d'aridité au niveau du cœur. Elle est devenue symbole de la vallée des larmes. Et je voudrais considérer ce psaume 84 par rapport à ce verset 7, la vallée des larmes. Alors je sais que ce n'est pas toujours le thème choisi pour Noël, ou dans cette période. Mais on sait aussi que cette période n'est pas toujours la joie pour tout le monde. Au contraire. Vous savez, quand quelqu'un a perdu un proche, c'est souvent à ce moment-là qu'il en ressent encore plus le manque. Dans ce genre de période. On dit souvent que c'est dans cette période où il y a le plus de suicides. Il semble que ce ne soit pas confirmé. Il semble que ce soit plutôt même en janvier, après coup, ou au redémarrage de l'année. Mais ça reste quand même des fois une période difficile. Et puis... cette période de fête actuelle est un peu particulière, puisqu'on est quand même dans une période troublée. Et même si on peut se réjouir en famille, ça reste quand même en toile de fond. Il y a quand même toujours cette situation qui est là, inquiétante, préoccupante. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais dire trois choses sur la vallée des larmes, à partir de ce texte. La première chose que je voudrais dire, et c'est quelque chose que j'ai souvent partagé, mais c'est important de le dire et de le redire. La vallée des larmes, elle est inévitable. On n'y échappe pas un jour ou l'autre. L'auteur ne dit pas « si nous traversons la vallée des larmes ». Il dit « lorsque nous traversons la vallée », lorsqu'il traverse la vallée des larmes. Il y a une différence. « Si » évoque l'idée d'un passage éventuel, mais on peut y échapper. Mais « lorsque » évoque l'idée d'un passage inévitable, mais ponctuel. On a la même réflexion avec le psaume 23. Il est dit, David écrit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il ne dit pas « si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il y a une différence, et elle est importante. D'ailleurs, David ne dit pas aussi « il ne m'arrive aucun mal », il dit « je ne crains aucun mal ». C'est bien différent. Et je crois que c'est important que nous, en tant que chrétiens, nous sachions que la vie sera à un moment donné difficile. Elle n'est facile pour personne. Elle est faite de souffrances. Et la foi en Jésus-Christ ne nous fait pas échapper aux souffrances. Il y a des souffrances qui sont le tronc commun pour tout le monde. Celles liées à la maladie, à la séparation, au deuil et à bien d'autres problèmes. Et il est important d'avoir une conception de la vie chrétienne qui n'exclut pas cela. Attention à cette conception où, voilà, parce que j'ai Jésus, je vais toujours échapper à la souffrance, c'est faux. Attention aussi à cette prédication de l'Évangile qui laisse penser que si tu es un vainqueur en Jésus-Christ, tu échapperas toujours à la souffrance. C'est faux. Attention peut-être aussi à cette manière de penser qui, des fois, on pense que je suis le seul à souffrir et que les autres ne souffrent pas. Ça aussi, ça peut être dangereux. Jacques déclare dans son épître, au chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. » Et il ajoute derrière, « Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. » Qu'il passe de l'un comme à l'autre. Comment on chante ce cantique, l'un prie et l'autre pleure ou l'autre se réjouit. Et oui, on peut passer facilement de l'un à l'autre. Pierre déclare dans son épître, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la pensée de souffrir. » Là, il est question de la souffrance causée par la lutte contre le péché. Deux réflexions que je partage dans ce premier point. L'auteur du psaume exprime une souffrance. Il dit « je languis, je soupire, on sent une frustration ». Mais qu'est-ce qui le fait souffrir ? Qu'est-ce qui provoque des larmes dans ce psaume ? De toute évidence, ces fils de Corée se sont retrouvés privés de l'accès au temple à un moment donné. Et c'est ça qui les fait souffrir. La cause n'est pas mentionnée. Est-ce que un des fils de Corée a été disqualifié ? Est-ce qu'il y a eu une crise ? Est-ce qu'il y a eu une maladie ? Est-ce qu'il y a eu une invasion militaire qui fait que ? Certains pensent que ce psaume date de la période où David a dû fuir Jérusalem à cause de son fils Absalom. Et là, il aurait émis ce soupir par rapport au temple, combien ça devait lui manquer. On ne sait pas. Mais en tous les cas, il y a une souffrance qui est là, liée au fait d'être séparé du temple, de l'accès à la maison de Dieu. Je crois que c'est une souffrance qui est légitime dans notre cœur. Ces derniers temps, nous avons été privés de pouvoir nous rassembler. Et même en ce moment, on peut se rassembler, mais ce n'est pas encore normal. Hein. Et c'est frustrant, quelque part. Sentir qu'on ne peut pas trop bouger, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a une souffrance qui est là. Comme je le disais récemment, être privé du culte, être privé du rassemblement de l'Église, c'est être privé de communion fraternelle, de dons spirituels, de scènes, de louanges en commun, de pouvoir prier les uns pour les autres ensemble. Enfin, on est privé de pas mal de choses. Ça doit être une souffrance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire souffrir. Mais que le fait d'être séparés les uns des autres doit aussi provoquer dans notre cœur une souffrance. Et je crois que ça doit être ainsi. Là, il parle de l'oiseau qui fait son nid dans la maison. Il crie vers cela. Je crois que c'est important. Bien sûr, il est question aussi de l'autel. Alors l'autel, ça évoque, bien sûr, pour nous la croix. Alors la croix, ce n'est pas seulement là qu'on la vit. On peut toujours s'approcher du trône de la grâce avec assurance, parce qu'elle est là, la croix, pour nous. Et même chez nous, à tout moment, on peut s'approcher du trône de la grâce. On n'en est jamais privé, mais on peut s'en priver soi-même, par contre. Mais c'est bon de se rappeler que Jésus-Christ a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante. Et au travers du voile de sa chair, on peut rentrer dans sa présence. Mais la présence de Dieu, quand on en est privé, c'est quelque chose qui doit nous faire souffrir. Et on ne doit pas s'habituer. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette déclaration de Dieu lorsqu'il parle au peuple d'Israël. Et il leur rappelle les conséquences, ce qu'ils vivront s'ils désobéissent. Et dans ce que Dieu leur dit, il leur dira, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Et nous, on n'a pas envie de savoir ce que c'est d'être privé de sa présence. C'est quelque chose que l'on veut. Des fois, comme je dis souvent, on réalise souvent la valeur de certains bienfaits quand on en est privé. Des fois, on est tellement dans la présence de Dieu qu'on s'y habitue. Il ne faudrait pas en être privé pour apprécier un peu plus sa valeur. Je voudrais souligner aussi notre réflexion par rapport à ce premier point, pour encourager par rapport au fait qu'elle est inévitable. Il y a une histoire croustillante que j'aime bien dans l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs, mais celle-ci, je l'aime bien. Dans 1 Roi, chapitre 20, verset 21, il est écrit « Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. » Verset 23, « Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si l'on n'est pas plus fort qu'eux. » L'année suivante, Ben-Hadad, donc le roi des Syriens, passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et il dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours en face de l'un des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. J'aime bien cette histoire. Je la trouve toujours croustillante. Les Syriens ont subi une première défaite contre Israël. Et l'année suivante, souvent ça se répétait. Mais là, ils avaient expliqué leur défaite comme ça. Ils nous ont battus parce qu'on a combattu dans les collines et leur Dieu est un spécialiste des montagnes. Mais si on va dans la plaine, là, on va gagner. Et quand Dieu a entendu ça, il dit « Ah oui !» Et il dira « Parce qu'ils ont dit cela. » Et ils ont pris aussi une grosse défaite dans la vallée. Notre Dieu, c'est un Dieu de montagne et c'est un Dieu de vallée. Dieu est capable de nous mener dans les hauteurs. Il est capable de nous ouvrir les trésors du ciel. Mais dans les moments difficiles, dans les vallées, il est celui qui peut nous secourir comme aucun autre. Il est celui qui a les clés. Il est celui qui peut ouvrir dans notre cœur des chemins tout tracés. Nous l'avons lu. Il est celui qui peut ouvrir un chemin nouveau. Il y a quelque temps, j'étais au téléphone avec une sœur. Et en parlant avec elle, elle a perdu son mari. Et à un moment donné, en partageant avec elle, je lui ai dit, je crois que le Seigneur va ouvrir un chemin nouveau. Et en lui disant cela, j'étais convaincu de lui donner une parole de sagesse à ce moment-là. Vous savez, des fois, on partage, on dit une chose au téléphone, et en le disant, on réalise qu'on donne une parole de Dieu. Ça m'est arrivé quelques fois et j'étais convaincu de donner cette parole-là. Et je crois que dans ces moments-là, dans les moments difficiles, le Seigneur est capable d'ouvrir des chemins tout tracés, d'ouvrir des chemins nouveaux. Notre Dieu, c'est un Dieu tout terrain. Il est bon dans les montagnes, mais il est bon dans les vallées. Et c'est bon de se le rappeler, quel que soit le terrain, on y passe tous. Mais c'est bon de se rappeler que Dieu est vivant et il peut nous secourir dans tous les domaines. Ce que je voudrais dire aussi sur la vallée des larmes, c'est qu'elle est passagère. Le psalmiste, ici, il parle d'y passer, pas d'y séjourner, encore moins d'y habiter, d'y fixer sa tente, d'y construire sa maison. La vallée des larmes, c'est inévitable, mais c'est qu'un lieu de passage. C'est pas le terminus. Quand on prend l'autoroute Lyon-Annecy, à un moment donné, on n'échappe pas au tunnel. On en a deux. Il y en a même un qui s'appelle le tunnel de l'Épine. Hein, ils sont assez longs, ces tunnels. Et reconnaissons que c'est jamais très confortable, le tunnel. On aime bien quand on arrive au bout. Hein. On aime bien quand on commence à voir jour et qu'on sort du tunnel. Il y a quelque chose, des fois, d'oppressant. Mais quand on est sous un tunnel, ça va assez bien. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a une issue. Mais quand vous êtes dans un tunnel et que vous commencez à vous dire « il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'horizon », là, ça devient très difficile dans la tête. Le diable, il travaille à cela. Il essaie de faire croire que la vallée des larmes, c'est le terminus, c'est la fin. Il essaye de nous façonner de cette manière-là. Et ça, c'est dangereux. Combien de fois on rencontre des frères et sœurs qui sont découragés ? Et ce qui crée, je dirais, leur découragement, c'est le sentiment que finalement, on est au terminus, on est au bout. Non. La vallée des larmes, on y passe. C'est inévitable, mais c'est jamais terminus. La vallée des larmes, elle ne doit jamais conduire à la vallée des ossements desséchés. C'est qu'un passage. Et c'est vraiment important de se le rappeler. Mais je le dis bien, Satan, il est celui qui va des fois façonner notre manière de voir, boucher l'horizon. C'est bon de se rappeler dans le texte que nous avons lu. Il est dit que l'Éternel est notre soleil. Hein, il y a cette image du tunnel où, à un moment donné, on commence à voir la lumière au bout. Et ça, ça fait toujours du bien. Eh bien, notre Dieu, il est la lumière, celui qui est au bout. Dans le passage que nous avons lu dans ce psaume, à trois reprises, il est dit, il est question d'être heureux. Et c'est pourquoi la vallée des larmes n'est qu'un passage. Le but de Dieu, c'est de contribuer à notre bonheur. Ce n'est pas son but premier. Son objectif, c'est de nous sauver. Mais Dieu a cet objectif de nous rendre heureux. Il veut que même sur cette terre, nous soyons heureux. En comprenant que le bonheur, ce n'est pas échapper à toute difficulté. Attention de bien définir le bonheur. Comme la bénédiction d'ailleurs. Mais le bonheur qu'envisage le psalmiste quand on regarde, c'est d'abord cette communion avec Dieu. La présence de Dieu, l'assurance du salut, la vie avec Jésus, c'est ça le bonheur d'abord. Ça passe par là. Après, il y a d'autres paramètres. Et là, tu dirais toute une... Le bonheur, c'est souvent quelque chose de composé. Ça passe par l'activité, ça passe par le fait de donner, ça passe par le contentement. Il y a plusieurs paramètres. Mais je dirais le premier, c'est d'avoir Jésus-Christ comme sauveur, de l'avoir comme ami. Ça a été dit ce matin. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7, il dit « Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Retenons cette pensée. Si quelqu'un est dans la vallée des larmes, c'est quelque chose de passager. Ce n'est pas le terminus. Et puis, la vallée des larmes, c'est une opportunité. C'est une occasion. Le texte nous dit ici que la vallée des larmes peut être transformée en un lieu plein de sources. La vallée des larmes, elle crée des occasions. On trouve ce discours assez souvent dans la Bible, notamment dans les épîtres de Pierre ou dans les épîtres de Jacques. Jacques dit ceci, quand on lit ce texte, on est toujours un petit peu choqué, mais il est parlant. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques nous dit de regarder les difficultés comme une opportunité. C'est ça qu'il nous dit dans ce passage-là. Ce n'est pas souvent comme ça qu'on regarde la chose, mais d'arriver à changer son regard et de se dire, eh ben Dieu peut se servir de cela. On ne souhaite pas, on n'aime pas ces moments, mais c'est bon de s'en rappeler, parce que la souffrance... Elle peut me ramener vers l'essentiel. La souffrance peut m'aider à rentrer en moi-même. La souffrance peut me donner plus de profondeur. La souffrance peut m'aider à remettre les bonnes priorités. Ces derniers temps, c'est l'occasion pour certains de replacer les bonnes priorités, de faire un peu d'ordre et du tri. Maintenant, je voudrais dire ceci, je le dis souvent, la même souffrance, elle peut créer l'effet inverse. Je suis convaincu, malheureusement, que dans cette période, certains n'ont pas placé les bonnes priorités. Je suis convaincu que certains ne sont pas revenus à l'essentiel. Je suis convaincu que certains, au contraire, ne sont pas allés en profondeur. Mais le superficiel a pris un peu plus de place. Ce n'est pas automatique. Il y a quelque chose d'important. Dans ce passage, il est dit, ou il n'est pas dit plutôt, Dieu la transforme en un lieu plein de sources. Il est écrit, il la transforme en un lieu plein de sources. Pourtant, nous savons que Dieu, c'est le Dieu des transformations. C'est celui qui peut tout changer. Mais ce texte nous dit, ce n'est pas Dieu qui transforme ici, c'est nous qui transformons. Parce que dans ce domaine-là, il y a la part de Dieu et il y a notre part. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais même dans ce domaine, parce que ça dépend de mes réactions, de mes choix. Dans les moments difficiles, je peux soit laisser ouvrir des mauvaises portes, soit ouvrir les bonnes portes. Je peux prendre les bonnes décisions ou prendre les mauvaises. Et c'est comme ça que je vais pouvoir transformer la situation en un lieu de source ou en un désert, en quelque chose de plus aride. Dans beaucoup de domaines, plus ou moins, il y a toujours la part de Dieu et il y a la mienne. Dans le domaine du salut, c'est Dieu qui sauve, c'est Jésus qui pardonne les péchés. Mais à un moment donné, il y a une part de foi. À un moment donné, il faut accepter de reconnaître qu'on est pécheur, dire « Seigneur, change ma vie ». C'est vrai dans le domaine de la sanctification. La sanctification, c'est Dieu qui l'opère. Nous sommes incapables de nous rendre saints. Et en même temps, il faut participer. Dans le sens de se présenter, dans le sens de confesser ses péchés, dans le sens de s'attacher à Dieu. C'est vrai pour le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une grâce. C'est Dieu qui remplit de son esprit. Mais en même temps, il y a une question de désir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et on pourrait comme ça aller loin, jusqu'à l'épreuve et la difficulté. La vallée des larmes peut être transformée en un lieu de source, à condition que j'ai les bonnes réactions et les bonnes attitudes. Ce n'est pas automatique. Je voudrais aussi faire une autre réflexion. Je remarque que la pluie vient après que la vallée ait été transformée en un lieu plein de sources. Souvent, quand nous passons par une difficulté, nous voulons que Dieu intervienne, qu'il pose sa main, qu'il change la situation. Et moi, je remarque ici qu'il a fallu d'abord qu'ils trouvent des sources dans leur cœur, qu'ils ouvrent les sources, et ensuite, la pluie de la bénédiction est tombée. Nous aimerions que la pluie vienne tout de suite. Sauf que si la pluie vient tout de suite, nous n'allons pas ouvrir les sources intérieures. J'aime beaucoup ce témoignage, je l'ai déjà donné je ne sais combien de fois. C'est un témoignage du missionnaire Bernard Bertholon. Quand vous écoutiez ce missionnaire, je parle au passé parce qu'il a vieilli, mais il a toujours des histoires croustillantes. Quand il vous parle, il vous raconte de ce qu'il a vécu, notamment en Burkina Faso. Vous avez l'impression d'entendre le tam-tam. C'est vraiment... Et il racontait notamment ceci. Il disait dans leur station à Dori... Dans leur station missionnaire, ils avaient fait de belles plantations. Ils avaient mis de beaux arbustes. Et c'était quelque chose de magnifique au milieu du désert. Et puis à côté, il y avait les petits arbres rabougris du désert, tout abîmés. Ils ressemblaient à rien du tout. Mais un jour, il y a eu une sécheresse plus forte que d'habitude. Et il a fallu rationner l'eau. Et ils ont cessé d'arroser leurs plantations. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, tout ce qu'ils avaient planté est mort. Mais les arbres rabougris du désert, ils étaient toujours en vie. Toujours aussi moche, si on peut parler comme ça, mais toujours en vie. Pourquoi? Parce que l'arbre du désert, il avait appris à étendre ses racines. Il a trouvé des sources en profondeur. Tandis que les plantations habituées à recevoir de l'eau facilement, rapidement, n'avaient pas étendu leurs racines. Et je crois que c'est porteur d'enseignement pour nous. Passons des fois par des vallées d'aridité, des moments difficiles. Ça aurait être l'occasion pour nous d'étendre nos racines, d'aller trouver des chemins nouveaux, d'aller trouver des solutions nouvelles. Et Dieu permet des fois que ça dure un certain temps avant d'envoyer la pluie de la bénédiction. Parce que s'il envoyait tout de suite la pluie de la bénédiction, on serait un petit peu paresseux dans notre manière de fonctionner. Dieu fonctionne de cette manière-là, il faut l'accepter. Nous, on voudrait qu'il fasse tout de suite, qu'il y a une difficulté. Seigneur, intervient. Ben, Seigneur, prends son temps. Alors à un moment donné, il l'a fait tomber sa pluie de la bénédiction. Mais c'est dommage si entre-temps, je n'ai pas su étendre mes racines. Je n'ai pas su trouver dans mon cœur des chemins tout tracés. Je termine que dans cette période compliquée, dans cette période troublée, le Saint-Esprit nous aide à trouver des chemins tout tracés, à retrouver de la profondeur, à bien placer les priorités, à savoir rentrer en nous-mêmes. Des chemins, il y a des chemins des fois qui peuvent avoir été piétinés. Je parlais tout à l'heure, la Bible nous dit que Christ a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante. Il y a un chemin qui a été ouvert, mais des fois, à force de ne pas l'avoir pris, il est devenu inaccessible. Il faut savoir le retrouver. Je pense à ce texte de Jérémie, chapitre 6, verset 16, quand il est dit de retrouver les anciens sentiers. Il y a des sentiers, des fois, qu'on a oubliés, qu'on a délaissés. Celui de la prière, celui de la lecture de la parole de Dieu, celui de la communion avec Dieu. Des chemins pour atteindre Dieu ou aussi des chemins pour que Dieu puisse nous atteindre. Il y a quelque temps, je partageais sur ce texte quand le Seigneur a dit à ces hommes qui faisaient valoir ce qu'ils avaient fait, « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » Ça veut dire je n'ai jamais pu vous atteindre. Et je crois que dans ces moments-là, ça doit être aussi la possibilité pour Dieu de nous atteindre. Des fois, on est difficilement accessible à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas vous, mais on a du mal et certaines situations doivent nous aider à rendre notre cœur accessible, disponible. Que nous puissions transformer nos vallées de larmes en lieu de source et en lieu de bénédiction. La vallée de Baca, et puis bénédiction veut dire Beraka, il y a un jeu de mots qui est en hébreu, mais pour nous c'est ce que l'on veut faire, c'est pas un jeu, on passera par des moments difficiles. Si vous y avez échappé, vous en aurez, on n'y échappe pas. Mais qu'on puisse apprendre à transformer ces cellules-là en lieu de source et de bénédiction. Que le Seigneur nous aide dans cette perspective-là, cette fin d'année, début d'année qui approche, que le Seigneur nous aide à bien gérer nos moments de crise et de difficulté. Seigneur, merci de transformer nos cœurs en un lieu plein de sources. Mais on a bien compris que c'est notre part aussi, Seigneur. Je voudrais prier, Seigneur, pour ceux qui connaissent la vallée des larmes en ce moment. Parce qu'il y en a. Des fois, dans cette période, parce qu'il manque une personne. C'est comme si elle revenait. Je prie pour que tu fasses du bien dans les cœurs. Je prie pour qu'on puisse transformer la vallée des larmes en un lieu de source. Et que ta pluie vienne couvrir de bénédictions. Seigneur, merci d'aider chacun d'entre nous. Pour ceux qui n'ont pas de problème, s'il y en avait, Seigneur, je prie pour qu'on soit prêt dans ces moments-là et qu'on ait les bons réflexes, les bonnes réactions, les bonnes attitudes. C'est bon de se rappeler, Seigneur, que tu es le Dieu des montagnes et le Dieu des vallées et que sur tout le terrain, tu es le meilleur. Tu es le Sauveur. Tu es notre Seigneur. Manifeste ta grâce et ta bonté envers chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.